Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. L'instant M avec un M comme mort de rire.
Et on coupe ?
Non, je peux pas.
Vous êtes en direct, allez-y.
Non, en vrai, c'est un M comme média. On va tenter une mise en abîme ce matin. Encore plus fort que la vache qui rit et ses boucles d'oreilles en boîte de vache qui rit. Mise en abîme, oui, parce que j'aimerais parler de l'exercice délicat de la promo médiatique avec un humoriste qui est actuellement en tournée pour un spectacle. Son passage dans ce studio est donc de la promo. Il s'appelle Fary et sera sur la scène de Bercy ce week-end. On le voit aussi sur Netflix et plus récemment sur Combini dans de courtes vidéos calibrées pour les réseaux sociaux. Parlons avec lui de la médiatisation des humoristes en France, de leur place sur les plateaux télé et de la façon dont ils et elles sont interviewés. Les considère-t-on vraiment comme des artistes? Leur demande-t-on toujours d'être le rigolo de service? Faut-il avoir un avis sur tout et tout de suite? Autrement dit, l'humoriste est-il un animal médiatique comme les autres?
L'instant M. Dorothée Barba sur France Inter.
Bonjour Fary.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter.
Oui, merci.
C'est un peu tôt pour vous apparemment.
C'est beaucoup trop tôt.
Alors vous serez donc à l'Accor Hotel Arena vendredi soir. Et puisqu'on parle de promo, je commence par une question de pure promo. Comment vous sentez-vous à 3 jours du spectacle?
J'essaie de ne pas en faire un événement. C'est un peu prétentieux de dire ça quand on va faire Bercy, mais j'essaie de ne pas en faire une date. Quand j'avais fait le théâtre du Châtelet, je m'étais trop dit, ouais, ça va être exceptionnel, attention, c'est le théâtre du Châtelet, c'était mon rêve. Et au final, j'étais autant spectateur que les gens dans la salle, quoi. Je me regardais jouer. C'est pas un moment que j'ai pas pris de plaisir. Donc là, je me suis dit, vas-y, comme si t'allais faire une scène ouverte.
Faites gaffe parce qu'il y aura du monde, hein, quand même.
Il y aura 15 000 personnes.
Allez, on vous retrouve dans quelques minutes, Fary, juste après la chronique numérique de Xavier Delaporte. Mais d'abord, 2 mots d'actualité des médias. Il fut le directeur de l'Humanité pendant 20 ans, entre 1974 et 1994. Roland Leroy, ancien député communiste, est mort hier à 92 ans. Une vie marquée par son engagement dans la résistance à l'âge de 15 ans. Son journal, qui se bat aujourd'hui pour sa survie, lui consacre 4 pages. Hommage à son agilité d'esprit, sa culture, sa rigueur et son allure de dandy. Roland Leroy ou l'élégance de l'engagement, c'est le titre de l'Humain ce matin. Petite révolution pour les lecteurs du Monde. Le quotidien du soir a supprimé son cahier économie et entreprise depuis aujourd'hui. Ou plutôt, les articles qui figuraient dans ces pages indépendantes du reste du journal sont désormais dans le journal. L'ambition est de faire mieux se croiser l'économie avec les autres domaines de l'actualité et surtout de simplifier l'offre papier du Monde pour consacrer plus d'énergie au numérique. Et le mardi, dans l'instant M, Xavier Delaporte ausculte nos outils numériques, justement. Bonjour Xavier.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous.
Il est question de communication politique. Cette semaine avec vous, la fenêtre de la porte s'ouvre sur des photos.
Oui, elle s'ouvre sur des photos qu'on a beaucoup vues tourner ces derniers jours et qui font débat. Celle d'Emmanuel Macron lors de sa maraude avec le SAMU social, une maraude qui a eu lieu il y a une semaine, à laquelle n'étaient pas conviés les journalistes. Les images, ce sont donc d'abord celles du ministre qui l'accompagnait, Julien de Normandie, postées le lendemain sur Twitter, mais aussi, plus récemment et plus fortement, une photo postée sur son compte Instagram par Soizic de la Maçonnière, la photographe officielle du président. Une belle image sur laquelle on voit Emmanuel Macron à genoux à l'entrée d'une tente en train de discuter avec son occupant que lui, on ne voit pas. Alors qu'est-ce qui est intéressant dans ces images et dans le débat qu'elles suscitent? D'abord, la volonté de l'Élysée de choisir d'autres voies de communication que les médias institués. On peut comprendre que l'Élysée n'ait pas voulu convoquer de caméra à cette maraude, mais si la volonté était la discrétion, qui a été tant applaudie par les soutiens du président, pourquoi publier ensuite quelques clichés très avantageux? Parce qu'il y a un profit à tirer. Et que les réseaux sociaux donnent l'impression que tout ça se fait l'air de rien. Alors c'est pas la première fois que l'Élysée choisit cette voie. Souvenons-nous de l'intervention du président sur l'affaire Benalla à la Maison de l'Amérique latine, là où il n'y avait pas de journaliste encore, mais un opportun correspondant qui a fait fuiter les images de cette intervention. Souvenons-nous de la vidéo diffusée sur Twitter d'un Emmanuel Macron en bras de chemise à son bureau expliquant qu'on mettait un pognon de dingue dans les minima sociaux. La question de savoir si c'est de la com ou pas que se posent certains journaux me semble très secondaire. Bah oui, c'est de la com évidemment, mais une com qui prend d'autres voies et d'autres formes que la bonne vieille com politique à la papa, une com qui rechigne à s'afficher comme telle et qui révèle une volonté de maîtrise supérieure à celle de ses prédécesseurs. Ces images sont produites et diffusées par l'Élysée sans intermédiaire. Le problème, c'est le deuxième point, c'est que personne n'est dupe. pour tout un tas de raisons, il n'y a plus d'innocence dans notre rapport à la com. On a appris à décoder les images, l'éducation aux médias a fait son œuvre, et le fait que chacun soit aujourd'hui producteur de sa propre image dans les réseaux sociaux nous a accoutumés au trucage. Tout le monde sait très bien ce que c'est que son profil avantageux ou un profil avantageux, l'intérêt du noir et blanc, etc. Avec la conséquence qu'il est devenu très difficile, sans doute plus qu'il y a quelques années, de faire passer ce type d'image pour autre qu'elles ne sont. Le risque, c'est de passer pour des manipulateurs ou des naïfs, ou pire, pour des manipulateurs naïfs. C'est ce qui se produit avec les images de la maraude présidentielle, renforcée par le fait que tout cela se fait sur le dos du SAMU social, donc des pauvres, et qui sont pas les mieux servis par la politique macronienne. Les critiques s'en donnent à cœur joie, opération ratée donc. Alors, résumons. Faire une maraude avec des journalistes, c'est trop vieille com. Y aller discrètement et mettre des photos choisies dans les réseaux, c'est contre-productif. À part ne pas y aller du tout, ce qui serait dommage, il reste une solution. Y aller, ne pas le faire savoir et n'en tirer aucun bénéfice communicationnel. Bref, faire un acte gratuit, un acte silencieux, un acte invisible, un acte normal. La vraie question est, qui est encore capable de faire ça? Nous qui passons notre temps à faire savoir au moins de nos followers ce qu'on a mangé ou alors la dernière paire de chaussures qu'on a acheté, on voudrait que notre président se montre d'une moralité supérieure et renonce à l'exposé de sa bonne action. Eh ben, le président, il est comme n'importe quel touriste qui, quand il va en Inde, se fait prendre en photo à côté d'un enfant des bidonvilles au regard tendre et trouve ça cool de la poster sur Instagram. On voulait un président moderne, eh ben on l'a.
Peut-être qu'on voudrait plus qu'un président simple touriste. Farid, ça vous fait réagir? Vous n'êtes pas très réseaux sociaux, je crois.
Pas du tout. Mais ça, c'est très stand-up comme pensée. De se dire que finalement, c'est un mec comme les autres. C'est une idée très marrante. Il veut juste montrer ce qu'il a mangé. C'est très marrant.
Ce sera le début d'un nouveau spectacle.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Le stand-up américain a trouvé son français. C'est ainsi que Netflix le présente dans son catalogue. Farid est donc mon invité ce matin. Alors, il est intéressant, Farid, de parler de la médiatisation des humoristes avec vous, parce que vous avez été découvert à la télé. On ne demande qu'à en rire, l'émission de Laurent Ruquier, après un passage par le Jamel Comedy Club, puis quelques sketchs très remarqués dans On n'est pas couché, toujours chez Ruquier. Ouais. Mais ça ne semble pas être un objectif en soi chez vous. Est-ce que vous avez mal vécu ces passages à la télé?
Ça dépend, ouais. On ne demande qu'à en rire. Je pense que je l'ai mal vécu parce que c'était trop tôt. Et puis, c'est pas exactement ce qu'on imagine quand on le voit à la télé, quand on n'est pas coutumier quand on est néophyte et qu'on voit ça, on a le sentiment que moi ou Olivier de Benoît, on est au même niveau. Parce que les gens ne connaissent pas ces visages. Alors que, à ce moment-là, Olivier de Benoît, ça fait peut-être 7-8 ans qu'il fait ce métier. Et moi, je suis en train de le découvrir. Donc, c'est plus la manière dont c'est apporté. Donc c'est le problème quand on commence à faire de l'art ou qu'on a envie que ça fonctionne, et on veut des choses trop tôt, trop vite.
Et vous auriez tendance aujourd'hui à refuser les invitations sur les plateaux télé?
Aujourd'hui,
l'attaché de presse n'écoute pas, vous
aujourd'hui,
inquiétez pas.
Aujourd'hui, quand je peux me le permettre, j'y vais pas, ouais.
Vous connaissez le Palmachot, Farid?
Oui,
voici
très bien.
Voici ce que donne la promo vue par ce duo d'humoristes.
Ok les mecs, donc moi je suis attachée de presse, donc on va commencer par bosser la promo.
Ah non, pas la promo.
Quoi?
Mais non, mais c'est juste qu'on sait exactement comment ça va se passer. Je veux dire, avec les émissions aux 1000 chroniqueurs aujourd'hui, là, ça va être impossible de parler du film.
Ils adorent, c'est les petits chouchous, ils sont là, ils sont dans mon petit cœur. C'est la Palma, ils adorent, ça va les petits chouchous? Mes petites beautés, ils sont contents d'être là?
Ouais. Oui, très content d'être là pour parler du film. Justement, ça raconte.
Alors génial, mais d'abord on se fait les 4 tiers à Jean-Luc. Jean-Luc qui nous fait les 4 tiers.
Puis alors, ensuite, il va y avoir les questions pièges. Bah, ça, oui. C'est sûr, on va se faire niquer.
Niquer. C'est une histoire qui se déroule pendant 4 années, avec des rebondissements, des péripéties, des actions, des rencontres. Vous êtes Charlie? Et donc c'est un film qui sort le 2 novembre. Israël ou Palestine?
Imitation assez réussie de Léa Salamé, époque On n'est pas couché. Tout ce cirque, ça vous parle, Farid?
Ouais, moi, plus le côté... il faut être drôle très vite, quoi. Ouais. C'est un truc dans lequel j'ai du mal. En fait, c'est l'idée d'avoir à vendre ce qu'on fait. On devient commercial de ce qu'on est nous-mêmes. C'est très particulier comme posture.
Ça n'est pas votre métier d'improviser, de lancer des vannes qu'on n'a pas écrites, retravaillées, peaufinées.
Ouais, non,
c'est pas le vôtre.
Ça arrive de temps en temps, mais justement, le stand-up, c'est l'art de savoir maîtriser la virgule, de savoir maîtriser le bon mot, de savoir maîtriser le silence aussi. Donc, on a donné aussi cette mauvaise image du stand-up du mec qui improvise et qui est drôle tout le temps, mais ça c'est des personnalités. Il y a des mecs qui sont extrêmement drôles dans la vie de tous les jours et sur un plateau télé, ils peuvent faire rire tout le monde, d'autres non.
Ce qui est très particulier souvent dans les interviews d'humoristes, c'est que ça consiste à poser une question qui n'est pas une question en réalité, mais qui est une allusion au spectacle et qui est une invitation à refaire telle partie ou tel sketch du spectacle.
Une invitation ou presque...
un ordre.
C'est un ordre. C'est... On ne nous laisse pas trop le choix en général. En général, c'est...
Et pourquoi pas, après tout, ça peut donner envie au public de venir vous voir sur scène.
Ouais, mais... En fait, ça donne une... Enfin, me concernant, ça donne une fausse idée de la personne que je suis. L'art, tout l'art du stand-up, de la manière dont je le vis, c'est de s'approcher le plus possible d'une forme de sincérité. Et donc, faire croire que je suis drôle dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai, moi. Je préfère à des blagues une conversation sérieuse. Donc, et puis, c'est aussi donner du matériel, de ce qu'on a, comme si c'était... notre manière de parler dans la vie de tous les jours, c'est pas vrai, on n'est pas aussi intéressant.
Finalement, ce sont des interviews qui disent « Vous êtes drôle, prouvez-le ».
Exactement, vous êtes drôle et intéressant, prouvez-nous ça en une seule phrase.
Vous avez pas mal voyagé avec votre précédent spectacle, « Fairy in the New Black », qui était diffusé sur Netflix. Diriez-vous qu'il y a une spécificité française dans la façon dont les médias traitent les humoristes ?
Je crois pas, parce que je pense que aux États-Unis, c'est un peu pareil, il y a des interviews préparées. Juste, elles sont un peu mieux préparées. Juste, elles sont préparées à deux, en fait. Je crois que ce qu'on se raconte là de lancer sur des thématiques pour faire rire, eux, ils font ça sur des... ils préparent vraiment ça sur des moments de vie, sur des anecdotes qu'ils ont.
Donc, ce sont des interviews co-écrites entre l'intervieweur et l'interviewé.
Ouais. C'est des choses presque répétées.
On pourrait presque crier au bidonnage.
Ouais, c'est une autre culture et c'est une manière de faire qu'ils ont qui correspond à leur au côté un peu showman qu'ils ont. Moi, j'aime le côté un peu plus vrai. Donc nous, on est un peu dans un entre-deux, il faudrait choisir.
Après, quand on a un humoriste sur un plateau télé, c'est aussi tentant de lui demander de réentendre les passages les plus drôles de son spectacle.
Je crois que c'est la raison aussi pour laquelle on l'invite, c'est que on se dit tiens, c'est un mec drôle, on a besoin de détendre l'atmosphère, on invite l'humoriste, mais je crois qu'après c'est un choix aussi en tant qu'artiste de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait.
On a besoin d'une respiration, donc on vous traite pas comme un artiste.
C'est ça. C'est ça.
Alors, votre spectacle s'intitule Hexagone, oui. Fary. C'est un hommage à la chanson de Renaud. Vous parlez d'identité, d'intégration, de religion. Et vous le dites, dans le spectacle, on vous a reproché au début de ne pas être assez corrosif pour vous attaquer à la France, comme le faisait Renaud. Il est là le rôle qu'on assigne aux humoristes aujourd'hui. Il faut être corrosif.
Mais c'est marrant, parce que moi, on veut que je sois corrosif. Et quand les rappeurs, ils le sont trop, on dit que c'est pas bien.
C'est pas respectueux.
Ouais. J'ai l'impression qu'on veut de nous qu'on soit... un petit peu piquant, qu'on soit corrosif, qu'on soit qu'on essaie de bousculer les choses et qu'on soit impertinent. J'ai l'envie de croire que l'humour, ça peut être quelque chose de positif, qu'on peut lier les gens avec et pas forcément attaquer et remettre en question. Et on a cette vision très précise de l'humour des fois, selon les périodes. Et on veut de nous qu'on soit corrosif.
Vous parliez à l'instant du silence, de la place du silence dans le stand-up et ce spectacle dont je ne divulgue pas trop. Il commence par un grand silence qui est très émouvant et ensuite tout de suite on va parler d'Éric Zemmour.
Ouais.
La première personne dont vous parlez sur scène, c'est Éric Zemmour.
Malheureusement.
Vous êtes affligé en tant que téléspectateur aujourd'hui, Fary?
Maintenant, j'en deviens...
La présence médiatique de Zemmour et de Finkielkraut qui est aussi évoquée.
J'en suis presque amusé maintenant.
Ah.
Parce qu'on a compris, je commence à comprendre ce qu'ils font. C'est, à la base, ils viennent juste vendre un livre. Donc, au final, on se rend compte que tout le monde se fait avoir et puis on part dans une polémique et puis ça parle de lui et puis ça fait de la pub. Donc, moi, quand j'ai vu ça, au début, j'étais un peu choqué et puis après, j'ai pris ça avec beaucoup de dérision. Au final, ça n'a aucun sens, c'est pas un vrai débat.
Finalement, Zemmour, c'est comme les humoristes, on lui demande de faire son petit numéro.
Exactement, je crois que c'est précisément ça, on lui demande, tiens, fais ce que tu sais faire, de qui tu vas mal parler aujourd'hui.
Alors l'idéal pour se faire connaître, plutôt que d'écumer les plateaux télé, c'est de tourner sur les réseaux sociaux. Vous êtes le directeur artistique d'une pastille vidéo qui s'intitule Stand Upper et qui est diffusée sur Combini, c'est un site d'info et de divertissement. Un humoriste qui est filmé face à un public dans des vidéos très courte, voici ce que ça donne.
Quand Éric Zemmour, il arrive en télé et dit, il faut tel et tel prénom. Et il dit, il est contre la double nationalité. Nous, notre seule réaction, ça devrait être... Excuse-moi, parce que moi, j'ai la double nationalité. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est la seule question qu'on a posée, ok? Qu'est-ce que tu... T'es français? Moi aussi. On règle ça à FIFA? Je prends la France. Qu'est-ce que tu vas faire?
Moi, je me suis rendu compte, par exemple, un truc qui m'avait vraiment brisé le cœur, c'est le fait que mes parents divorcent. À l'époque, j'avais 15 ans, j'en chialais tout le temps. J'en parlais beaucoup à ma grand-mère, qui était un peu ma confidente à l'époque. J'étais, ah, putain, c'est tellement horrible. Je sais pas si toi, tu peux comprendre. Je sais pas si c'est passé des trucs graves quand t'étais petite. Bah oui, la Deuxième Guerre mondiale.
Ça va être la Saint-Valentin. Si vous avez un premier encart, eh, venez pas sur votre 31. Vous apprêtez pas trop, vous mettez pas sur votre 31 parce que dans la vie de tous les jours, faudra assumer après. Être 31, c'est beaucoup, hein. Ma soeur, dans la vie de tous les jours, il va te voir sur un 4, 5. Non, non, premier rendez-vous, viens avec la moyenne déjà. Viens sur un petit 13, 14, surveille du PSG, tu connais.
Alors, on a entendu dans l'ordre vous, Farid, Marina Rollman, que les auditeurs de la bande originale de Nagui sur France Inter connaissent bien, ainsi que Fadili Camara. Est-ce que c'est une manière de revenir à l'essentiel, de faire connaître les humoristes par ce qu'ils font le mieux?
C'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est de montrer aussi... toute l'étendue que peut avoir le stand-up dans le traitement des sujets, c'est montrer que c'est avant tout des idées plus qu'une façon de faire, c'est une façon de réfléchir en fait le stand-up. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la chronique c'était une pensée stand-up, c'est amener une idée différente sur quelque chose qu'on a déjà vu et que tout le monde a donné son avis. Et donc c'est une manière de mettre en avant le stand-up dans sa forme la plus simple, mais aussi de faire qu'on voit certains humoristes qu'on ne voit pas assez sans qu'ils aient entre guillemets à se travestir.
À se pervertir dans les médias traditionnels. À quoi sert le public dans ces vidéos, puisque le spectacle ce jour-là est conçu pour être filmé et pour être diffusé dans cette petite pastille?
Parce que sans le public, on n'existe pas. C'est la raison pour laquelle on le fait.
Mais celui qui rit, c'est celui qui est devant son écran.
Ouais, mais l'idée, c'est de venir capter un moment qui existe et pas de créer un moment pour le public. Parce que dans les vidéos qu'on montre, on ne fait pas venir les gens que pour ça. C'est une soirée qu'on la capte ou qu'on ne la capte pas, elle aura lieu. Et donc là, c'est, tiens, on va ramener des caméras, ils vont essayer de capter ce moment comme on pourrait capter un moment d'un match de football. On se demande pas pourquoi le stade est là.
Alors c'est peut-être un détail, mais comme dans toutes les vidéos qui circulent aujourd'hui sur Internet, il y a des sous-titres.
Ouais.
Et ça change tout. C'est très bizarre, non, de regarder un spectacle comique sans le son, juste avec les sous-titres.
Je crois que c'est ce qui attire au départ. Je crois que quand on est sur le fil d'actualité, des fois on regarde les sous-titres, on se dit tiens, est-ce que c'est intéressant ou non? Bon, quand c'est intéressant, on lance la vidéo, on la re-regarde.
Un mot sur Netflix, Farid, puisque vous faites partie du catalogue Netflix. Est-ce que vous trouvez que le géant américain du streaming a changé l'image du stand-up en France?
Je pense que surtout, il l'a rendu accessible. On a vu ce qu'était le stand-up dans sa forme originale, c'est-à-dire venu des États-Unis, et ça permet de voir que là-bas, ils ont des grands noms, que là-bas, ils touchent beaucoup de gens, et puis que c'est une autre manière de faire de l'humour. C'est sincère, c'est simple, et puis c'est intelligent.
Il faut quand même aussi qu'on parle de copie comique.
Non,
ce youtubeur mystère qui accuse certains humoristes de plagiat, des humoristes français qui auraient copié des Américains notamment. Ouais. Vous n'êtes pas visé, Farid, contrairement à Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, Malik Bentala ou Michael Youn. Que pensez-vous de cette démarche de copie comique?
C'est très vaste, c'est très compliqué, parce que moi j'aime pas l'idée d'un mec dans l'ombre qui se veut le justicier de...
C'est l'anonymat le problème, l'anonymat de ce justicier.
Et c'est aussi les raisons pour lesquelles il le fait. Je pense que si la volonté c'était de faire que on ait conscience de ça et que ça se fasse moins, si c'est forcément quelqu'un qui connaît tous les humoristes parce que il parle avec des humoristes
donc
en privé.
Donc c'est un auteur.
Je ne sais pas si c'est un auteur ou si c'est un humoriste, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait se réguler entre nous, et ces vidéos, ils pourraient les faire communiquer entre nous, et nous, on aurait conscience de ça. Mais la manière d'abattre en public quelqu'un, de ce tapage médiatique, et la volonté de se mettre en avant en frappant sur quelqu'un, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Après, le vol, comme dans n'importe quoi, évidemment, c'est pas quelque chose de beau, mais...
Merci beaucoup, Farid. Hexagone, votre spectacle est à Paris-Bercy ce vendredi. C'est complet,
c'est
je
complet,
crois.
Déjà,
voilà,
mais
t'es en tournée dans toute la France jusque fin juin. Et on retrouve les vidéos stand-upers de Combini sur les réseaux sociaux. Juste après les infos, ce sera grand bien vous fasse. Bonjour, Ali Rebelli.
Bonjour, Dorothée Barba. On s'intéresse ce matin aux différentes formes de baby blues, de la déprime passagère à la dépression postnatale. On va essayer de savoir si on peut prévenir ces différentes formes de baby blues. Et on verra si les pères peuvent être frappés de baby blues. 01 45 24 7000.
Très belle journée à tous sur France Inter, il est 10h.